On en parle, Sophie Richard.
L'invité de Grand Angle ce matin est d'origine anglaise et s'il est sociologue de formation, l'exploration de l'âme humaine l'a vite intéressé bien plus que toutes les statistiques ou les tendances sociologiques. Dans les années 70, Steven Vazet choisit donc d'exercer la psychothérapie, puis il y a une dizaine d'années, décide de se lancer dans la recherche des mécanismes de la colère qui souvent dégénèrent en violence. Gérer la colère pour diminuer la violence, trouver ou retrouver sa puissance intérieure, c'est sur ce thème qu'il anime des stages. Steven Vazet est l'invité de Manuela Salvi.
Un mort au Locle, un à Vaudrance, encore un à Yverdon, où s'arrêtera la macabre liste des adolescents victimes de violences? Les adultes sont sous choc, les jeunes, eux, vivent souvent cette violence au quotidien. Steven Vazet, bonjour.
Bonjour.
On vit dans un monde de brutes, la violence est inéluctable?
Il me semble que c'est absolument nécessaire que les gens expriment certaines choses. Je suis d'accord avec beaucoup d'autres personnes, il faut la refuser. Mais c'est vrai que comment on va s'y prendre, ou comment aider les jeunes en particulier, puisqu'on parle de jeunes, à pouvoir exprimer certaines choses, à pouvoir être. Ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de choses à partager, mais comment les aider à canaliser ça d'une manière intelligente, ou bonne pour eux d'ailleurs, où ils ne doivent pas le payer non plus trop cher, ou faire trop de dégâts.
Steven Vazet, vous êtes sociologue de formation, vous avez bifurqué, vous êtes devenu psychothérapeute. Que reste-t-il de votre formation de sociologue dans le regard que vous portez sur le monde?
Les phénomènes de société m'intéressent bien. Ça, j'ai un petit faible pour regarder un peu comment les choses se passent, se développent, ce qu'on appelle aussi les trends. C'est un peu les modes du moment, mais social, ou ce qui se passe dans les relations des gens, ça je trouve très intéressant. Maintenant, non, c'est plutôt la psychothérapie qui me fascine, j'aime tout l'aspect relationnel de ce qui se passe entre les gens.
Vous préférez donc travailler sur un matériau humain que sur un matériau statistique?
Voilà, nettement. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé psychologie et j'ai arrêté, parce que pour moi il y a trop de mathématiques et de statistiques. Oui.
Vous êtes spécialisé depuis plusieurs années dans le travail sur la colère. Pourquoi la colère? Vous auriez pu choisir la joie.
Oui, mais c'est à cause de la joie que j'ai choisi la colère. Il y a 12 ans à peu près, j'ai eu cette intuition de créer un processus sur la colère, parce que moi j'en avais besoin, parce que moi j'avais trouvé dans ma propre vie quelques petit bout de réponse là-dessus. En fait, la motivation première, c'est que je ne connaissais pas la colère. Donc là, j'ai 50 ans, jusqu'à l'âge de peut-être 28, je n'avais pas contact avec une colère.
Vous n'aviez pas accès à cette émotion-là.
Voilà, et encore moins l'exprimer. Et souvent, les gens disaient, ouais, Vazet, il est tranquille, il est flegmatique, ça vient de son côté anglais, etc. En fait, j'étais très réprimé et j'avais un colon spastique et ce genre de choses. Donc, j'ai voulu, moi, apprendre. J'étais très motivé aussi dans une relation amoureuse où ma partenaire était jurassienne et elle piquait des colères avec une liberté, une facilité qui était presque provocante pour moi, et j'ai voulu apprendre à ce moment-là.
Vous êtes un psychothérapeute qui concentre son travail sur la colère, vous venez de nous en donner un aperçu, or c'est la violence qui explose partout. Alors quelle différence est-ce que vous faites entre un accès de violence et un accès de colère?
Pour moi, à l'origine, c'est toujours une colère dont il s'agit, c'est-à-dire quand notre territoire est menacé ou empiété, quand on a l'impression d'avoir pas été respecté dans notre intégrité, qu'elle soit physique ou psychique, émotionnelle, en général, il y a un mouvement à l'intérieur de soi qui est émotionnel et qui est intense, c'est un volume énergétique, si vous voulez, qui est très fort, et c'est de l'ordre de la colère. Et cette colère, c'est une émotion qui est là pour nous protéger. Elle est là pour nous donner une certaine énergie, nous réveiller et nous faire traverser une situation peut-être qui est difficile, qui est conflictuelle. Donc l'émotion, elle se passe à l'intérieur de nous et ça nous permet peut-être justement d'exprimer, rencontrer la personne qui est en face. Ça nous prépare.
Maintenant, la colère, elle nous protège, mais la violence, elle nous détruit.
Et elle détruit l'autre. Maintenant, vu qu'on a du mal à identifier cette colère, vu qu'elle a été très mal reconnue, aimée, permise aux enfants, c'est-à-dire ça, c'est dans l'éducation, ça passe de génération en génération, C'est quelque chose qui se fait très naturellement. C'est pas seulement qu'on ne permet pas à un enfant d'être en colère, c'est que pour beaucoup de parents, c'est insupportable. Parce qu'un enfant qui est dans sa colère est très entier souvent au départ, et il est tellement dans sa puissance, il a tellement pas peur quand il est en colère, le petit, que pour les parents, c'est des fois très vexant, c'est insupportable, et ils ont tendance à brimer l'enfant sur la colère. C'est-à-dire, de toute façon, c'est à eux de décider, ça c'est clair, mais en général, il y a des remarques qui montrent que tu fais plus jamais ça avec moi, tu te montres pas comme ça devant moi. Parce que pour le parent, qui est peut-être pas dans sa puissance, qui est stressé, qui a mille choses qui le préoccupent, etc. C'est vrai, comment il peut répondre à ça? Il n'est pas dans l'état. Alors, c'est beaucoup plus simple de dire à un enfant, tu réprimes ça, tu ne te montres pas comme ça devant moi, tu ne te mesures pas à moi avec ça. Alors, l'enfant comprend qu'il ne faut pas qu'il se mette en colère. Donc, il va détourner cette colère, il va la refroidir, il va tout d'un coup pas faire quelque chose, il va casser quelque chose. Il va apprendre.
Ça va sortir autrement.
Voilà, et ça, on pourra en parler, c'est très intéressant. C'est ce qu'on vit le plus dans nos familles, partout, c'est admis. Ça nous énerve, ça nous blesse, ça fait beaucoup de dégâts, mais on ne va pas en prison, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être très froid, très distant, de couper le contact, etc. Parce que ça, c'est les modes de survie dont on a tous hérité de notre éducation.
Ce qu'on comprend, Steven Vazet, c'est que les médias évoquent quotidiennement les épisodes de violence. Pour vous, c'est la pointe de l'iceberg? Dans la famille, c'est encore plus violent?
Maintenant, on commence à nommer la violence usuelle, habituelle, admise, si on veut, qui se passe dans les relations. Elle est normale, donc on peut vivre avec, hein, faut pas dramatiser. Mais je pense que c'est important d'identifier les violences différentes. Alors, il y a celle qui est physique, qui est toujours très reconnue, qui est réprimandée, donc avec raison, pour moi, c'est très...
Qui est sanctionnée.
C'est sanctionné, c'est inadmissible, ça c'est clair. On dit aussi qu'elle appartient plus aux hommes qu'aux femmes. C'est pas toujours vrai, mais en proportion, en statistique, justement, à mon avis, là, on pourrait prouver ça. Oui, c'est plus les hommes qui vont passer à l'acte physique de violence. Maintenant, la violence par les mots, par la rupture de contact, hein, par faire semblant que quelqu'un n'existe plus, par exemple, c'est d'une violence, mais innommable. Ça touche les gens tellement profondément que justement certaines personnes se mettent à être très violentes physiquement. Donc on n'a pas idée combien on est provoqué par cette violence que moi j'appelle, c'est de la colère froide, refroidie donc, hein, elle est plus chaude, elle est refroidie, elle est sèche, elle est piquante, elle est détournée, elle prend des formes diverses, par exemple l'humour particulièrement anglais, ou l'ironie, les sarcasmes, on a juste dit une blague, mais les gens sont très blessés, ils sont très, après ils sont fermés, après ils font payer, ils monnaient ça dans un autre moment, ça fait beaucoup de dégâts.
Dans les accès de violence, dont l'issue peut être fatale, hein, quelques adolescents n'ont fait les frais, c'est l'indifférence au sort des autres. L'autre, il n'existe pas, il n'existe plus.
Je pense qu'il faut aussi voir ça comme une forme de violence à soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un état d'insensibilité, il n'a pas le contact avec lui-même, avec ce qu'il peut sentir, avec ce qu'il peut ressentir par rapport à une autre personne, justement, son empathie. Il n'a pas non plus d'idée du prix qu'il va payer. Mmh. C'est-à-dire qu'il est dans un état...
Et il va payer un prix.
Ah ben, heureusement, dans notre société, en tout cas, c'est sanctionné, et c'est tant mieux. Et c'est important que le message passe, qu'il y a des limites à ce qu'on peut infliger à d'autres. Mais pour moi, il y a une sorte de, dans cet état, je dirais, d'abrutissement, c'est-à-dire qu'on n'est pas en contact avec ce qu'on peut ressentir. C'est vrai, tout d'un coup, on fait quelque chose, puis après, on se rend compte qu'on a été trop loin. C'est ce qui se passe aussi dans des conversations violentes, où il y a, pour moi, de la colère froide, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va trop loin. On dit des choses qu'on n'aurait pas voulu peut-être dire, mais qui blessent terriblement l'autre, par exemple. Donc, cet état d'insensibilité, c'est une forme de violence. Mais il faut en voir l'origine chez soi. C'est-à-dire que si je me mets dans un état où je coupe ma colère, mais ma colère, vous voyez, c'est là où c'est plus compliqué. C'est-à-dire que la colère, c'est pas juste que je décharge quelque chose de fort. C'est que, probablement, je suis en train d'exposer quelque chose de très intime à ce moment-là. C'est vulnérabilisant que de se mettre en colère. Parce que je suis en train de dire, mais ça me touche. Je suis très mal par rapport à ce qui vient de se passer. Les gens ne vont pas jusque-là. Souvent, ils vont dire, mais t'as vu ce que t'as dit? Ou ils vont commencer à projeter sur l'autre et dire, mais toi, t'es pas adéquat. Et ça, c'est l'agressivité, c'est la violence, si vous voulez. Parce qu'on n'a toujours pas su, mais pourquoi la personne monte le temps? Maintenant, les colériques, non. C'est-à-dire, eux, ils s'échappent dans la colère. Mais c'est une colère agressive, donc projective, hein, c'est-à-dire que ça attaque l'autre. C'est de l'agressivité, si on veut. Hein. Elle décharge un peu, elle soulagera un petit peu, mais en fait, elle finira pas l'histoire. Voilà, on recommence parce que l'autre va nous rendre ça d'une certaine manière. Et vu que c'est pas vraiment libéré à l'intérieur de soi, on doit se remettre en colère une autre fois un peu plus tard.
Ouais. Mais l'autre qui a été cible de l'agression, cible de la violence, sera désigné comme une victime. Est-ce que c'est toujours aussi simple, hein? Un agresseur méchant d'un côté et de l'autre une victime forcément innocente?
Ouais. Écoutez, je vous donne juste un exemple. Ça, c'était intéressant. J'ai eu une cliente qui avait été dans un épisode malencontreux, justement battue par son mari, et elle a été dans une institution spécialisée. Mais justement, elle était assez consciente de voir que quand on lui parlait, elle était traitée comme une victime, ce qui était important qu'elle soit protégée. Mais ça l'a ennuyée après un moment. Qu'elle soit tellement blanchie, c'est-à-dire qu'elle s'est bien rendue compte qu'elle avait provoqué son mari d'une certaine manière, régulière d'ailleurs, et qu'elle a beaucoup de peine à s'empêcher de le provoquer. Et un jour, ok, lui, il a éclaté. Donc, je pense qu'on est un peu simpliste, c'est-à-dire que face à un acte physique qui est violent, je pense qu'il y a de la provocation ou inconsciente ou semi-consciente, il y a de la provoque.
Mais celui qui est le plus responsable, c'est celui qui passe à l'acte.
Voilà. Et alors maintenant, ce qui est inadmissible à mon avis, c'est il faut donner cette limite physique, parce que elle est plus facile d'ailleurs à donner. Quand je fais des stages sur la colère, c'est une des limites que je pose dans le cadre que je pose au départ, c'est de dire il n'y a pas de violence physique à soi-même, sur les autres ou sur le mobilier, parce qu'on est dans un lieu de stage. Maintenant, de dire aux gens, vous vous engagez à qu'il n'y ait pas de violence verbale, c'est impossible, c'est trop inconscient, si vous voulez, c'est trop imprégné dans notre culture, qui est de projeter sur les autres des choses, de dire des choses d'une manière l'air de rien, mais qui peuvent être un impact sur l'autre négatif. Donc il faut qu'on apprenne beaucoup plus là-dessus. Il faut qu'on identifie, qu'on puisse plus jouer avec ça et l'identifier pour pouvoir dire après, bon, j'essaie d'en faire moins.
Stephen Vazé, vous êtes psychothérapeute, un psychothérapeute qui concentre son travail sur la colère. Si, on vous résume, si on exprime mieux sa colère, la société serait moins violente?
Alors ça, c'est ma croyance maintenant. Oui. Moi, je suis devenu moins violent parce que j'ai plus conscience que je suis un homme en colère. Je peux être en colère, je peux avoir des grosses colères. J'ai eu des tellement belles colères maintenant dans ma vie que j'en suis fier. Et que c'était des colères qui m'ont mis en contact avec le monde. Ça m'a pas séparé du monde. Hein. Ce qui a suivi après, c'était une grande qualité parce que je me suis exposé probablement dans ma colère. Donc moi, je pense que, bon, c'était vrai pour moi, mais quand je travaille avec les gens, je vois que beaucoup de gens, ça les aide. Hein.
Vous parlez de puissance, vous parlez de colère. Mm-hmm. Or, dans les années 70, les thérapeutes ont exploré une hypothèse hein, qui était séduisante, et revivre ses émotions, on pourrait dire revivre ses colères, les exprimer permettrait de les guérir. On est loin du compte.
Oui, écoutez, moi je vois plus tellement les choses comme ça. J'ai l'impression que à une époque, par exemple, la caricature de ce que vous dites, c'est qu'on devait aller exprimer une vieille colère jusqu'au bout, puis après c'était fini. Mais ça, c'était une vue, à mon avis, simpliste. Hein. C'est-à-dire que ce que moi, je suis pas sûr que c'est toujours utile d'aller revoir une vieille colère pour la finir, parce qu'à mon avis, c'est un peu ce que je propose dans mes stages, c'est qu'il faut qu'on commence avec la colère. Il faut pas qu'on en finisse. Il faut amener ça dans sa vie d'une manière grande, éclaboussante. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aime la colère.
Stephen Vazé, les adolescents ont aussi besoin de s'affirmer, d'intensité. D'ailleurs, l'adolescence, c'est bien le carrefour où on a besoin de s'affirmer. On n'est plus un enfant, mais pas encore un adulte. Qu'est-ce qu'il faudrait proposer à ces adolescents pour que leur colère, parfois quand elle déborde en violence, pour qu'elle se canalise?
À Fribourg, à Zurich, il y a de la boxe qui est organisée dans des... où c'est des quartiers chauds, comme on appelle, c'est-à-dire où il y a une certaine délinquance, où c'est comme des clubs qui s'ouvrent pour attirer des jeunes qui auraient besoin justement de canaliser leur violence, qui sont d'accord de le faire, ce qui est absolument extraordinaire s'ils sont d'accord. Hein. Des fois, c'est plus intéressant, plus excitant d'aller dans un gang, aller taper une personne. On dirait que ça se développe malheureusement. Mais pour ceux qui acceptent, alors ça, c'est des endroits où c'est clair, ils canalisent, ils apprennent quelque chose, ils apprennent à être sensibles à la situation tout en exerçant quelque chose d'intense, hein, parce que la boxe, ça peut devenir très fort, très violent. Ils doivent apprendre des règles très précises. Il y a un cadre qui est posé qui est archi strict, si vous voulez. Et là-dedans, c'est vrai qu'ils apprennent quelque chose sur leur propre force et leur propre besoin d'exprimer quelque chose d'intense. Donc il faut qu'on trouve des moyens. Surtout les jeunes hommes, ça peut être aussi les femmes, mais ont besoin, par leurs hormones, etc. C'est vrai qu'ils ont besoin d'intensité, ils ont besoin de s'initier aussi à quelque chose qui est intense. L'intensité, c'est un mot que j'ai l'impression qui dit bien ce que ça veut dire, c'est que on cherche de l'intensité dans notre vie, on a besoin d'intensité par moment. Un jeune garçon veut savoir s'il supporte l'intensité, il veut avoir peur aussi, il veut savoir qui il est, jusqu'où il peut aller, il veut en savoir beaucoup plus sur sa puissance. Alors un moyen, c'est de soutenir, mais bien sûr c'est pas sur sa petite sœur, c'est pas sur contre sa mère, c'est dans des endroits appropriés.
C'est contre un punching ball.
Par exemple.
Donc le discours moral des adultes qui assènent à ces adolescents non, ce n'est pas bien. Ça provoque encore de la violence.
Malheureusement, c'est notre réflexe de dire oh non, calme. C'est de mettre un couvercle sur quelque chose. En général, ça crée plus de pression. Observez ça dans une dispute entre deux personnes. Si un dit « mais calme-toi », en général, ça énerve l'autre. Parce que quand on est énervé, c'est pas facile. On a déjà de la pression. Et quand quelqu'un nous met la pression, on dirait « mais calme-toi », ça fait l'effet inverse. Donc on peut continuer de le faire si on veut. Mais il faut qu'on comprenne le processus. Si ça provoque encore plus de pression, donc d'expression forte, peut-être de colère agressive justement, et pas une colère affirmative, hein, mais une colère projective qui arrive sur l'autre, qui est contre l'autre plutôt que pour soi-même. Bien sûr qu'on est à côté de la plaque, c'est-à-dire que ça va pas aider les gens. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de peur par rapport à cette colère. Ça me fait penser un peu aux peurs qu'il y a pour la sexualité ou qu'il y a eu pour la sexualité. C'est comme un tabou. On n'aime pas la colère. Les amis ont écrit un très beau livre qui s'appelle « La colère, cette émotion mal aimée ». C'est tellement vrai qu'on l'aime pas, donc on ne la connaît pas. Si on peut apprendre à l'aimer, donc d'abord on commencera à apprendre à la connaître. C'est vrai qu'après peut-être on peut même trouver que, mais en fait elle m'aide, elle est importante dans ma vie. Donc je peux l'aimer et là je suis moins dangereux, ça c'est clair. J'ai plus de sensibilité si je commence à aimer quelque chose de moi que si je déteste ça, mais ça m'échappe constamment.
Donc pour l'aimer, pour la connaître, il faut aller dedans pour faire un pas de recul après.
Ouais. Oui, alors l'éducation étant faite par un adolescent de 15 ans, si on veut, c'est-à-dire qu'il va être éduqué sur le tard, si on pouvait lui donner là des outils, des éléments, il va peut-être apprendre une partie de ça parce qu'il va payer pour ses violences, ce qui est dommage parce qu'à cet âge-là, c'est peut-être pas ça qu'on a besoin, on paye trop cher, à mon avis, la leçon. Il y a d'autres leçons, meilleur marché. Moi, je suis pour une éducation qui partirait plus tôt. Et c'est un challenge parce qu'on est dans une culture où, si vous voulez, même moi qui travaille avec ça, qui a donc développé plus de connaissances, de conscience là-dessus, comment ne pas brimer ma fille ou lui donner un sous-message, si vous voulez, qu'elle fait faux quand elle s'énerve après moi, par exemple, ou elle est furieuse de quelque chose. Comment et lui donner une limite, parce que c'est moi le père, c'est moi qui va décider pour quelque chose, ça je reste très clair là sur mon rôle, mais de pouvoir la soutenir à pouvoir exprimer les choses aussi, c'est-à-dire comment je peux supporter ça, surtout si c'est après une journée de boulot, je suis fatigué, j'ai peut-être travaillé sur la colère avec d'autres, et puis voilà, ben alors pour moi ça c'est le challenge, donc c'est pas un challenge facile, c'est pas une recette à appliquer comme ça, je pense que on va tirer des leçons de ça.
Tout au long de cet entretien, nous avons évoqué la colère qui sommeille en nous, une colère qui peut dégénérer en violence si on ne prend pas soin d'elle, si on ne l'aime pas, si on ne rentre pas dans cette colère. Stephen Vazé, mais où se cache la tendresse ?
Pour moi, il y a une tendresse pour soi-même déjà, je trouve qu'elle est importante, de refuser à son corps de pouvoir être dans dans un sentiment vulnérable, peut-être de colère, c'est très dur, ça, c'est très violent par rapport à soi-même. Il y a une tendresse à pouvoir accueillir certaines choses en soi. Pour moi, ça, c'est un premier pas. Donc la tendresse, pour moi, elle n'est pas loin. Elle est nécessaire, elle est importante, mais à mon avis, elle est dans des meilleures conditions qu'on s'y avait besoin. Et là, ce sort de grand frère qui vient la protéger.
Ouais. Et ce grand frère, c'est la colère.
Voilà.
Aladdin a décidé de partager ses pouvoirs secrets. Alors on peut dire Aladdin, on peut dire un chaman ou un sorcier, peu importe. C'est que là, vous pouvez frotter la lampe d'Aladdin et formuler un vœu. Quel serait ce vœu ?
Pour moi, la baguette magique, ce serait comment on peut apprendre à aimer ça, parce que ça a besoin d'amour. Les choses ont besoin d'amour pour qu'elles puissent progresser ou bien évoluer ou devenir intelligentes. Et même la colère, c'est pareil. Donc pour moi, je souhaite plus qu'il y ait une sorte d'appréciation. On peut commencer à jouer et à jouir aussi de ce niveau-là. Ce qui est le cas pour les gens qui commencent à expérimenter avec ça.
Stéphane Fazier, merci.
Merci à vous.
Stéphane Fazier, psychothérapeute et qui travaille sur les mécanismes de la colère qui est nécessaire, seulement faut-il savoir la canaliser. Stéphane Fazier était l'invité de Manuela Salvi pour notre Grand Angle ce jeudi.
São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão caput fazer ideia, se na carna malar amassar. Já conchia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão caput fazer ideia, se na carna malar amassar. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura. Já tem guerra de carnaval, nesse mora benção sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, já tem guerra de carnaval, nesse mora benção sem igual. Não tem um fichinha mais sossego, da doicida vou poder entrar, qual que vá para cá está. Hoje é dia de carnaval, não tem um fichinha mais sossegado. Já vou excitar, vou poder entrar, qual que vá para cá está fantasma. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beija sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora benção sem igual.
Césaria Evora pour se dire au revoir et à demain pour une nouvelle édition d'On en parle. Dans un instant, sur la première, J'ai deux amours, l'émission d'été de Lucille Solari. Bonne journée. Vous écoutez Radio Suisse Romande la première. Il est 9h30.
Allô, allô, ici Radio Combloux. Chers auditeurs.